avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 85e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
Trois segments dans cet épisode. D'abord l'édito, qui est une petite réflexion sur l'écoute des podcasts. Le segment principal, qui est une rencontre avec Emmanuel Lafont pour parler du calibrage de l'écran. Et enfin, le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner. On supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, évidemment iTunes, mais également l'email et tous les agrégateurs RSS, donc y compris Google Reader, Netvibes et les autres. C'est là également que vous pourrez poster un commentaire, une réaction, demander vos cartes ou vos badges et retrouver tous les liens de l'épisode. Premier segment, l'édito. Je vais simplement partager avec vous une petite réflexion que je me faisais hier soir en rentrant dans le train. J'enregistre ceci dimanche, donc hier j'étais au salon de la photo. J'ai rencontré un certain nombre d'entre vous. On en a profité évidemment pour parler photo et on a aussi parlé du podcast. Et j'ai posé la question, où écoutez-vous le podcast et quand? Et la plupart des réponses étaient dans le train, dans le métro, en voiture. Donc en final, pas devant l'ordinateur. C'est intéressant à savoir parce que ça valide une hypothèse en fait que je fais depuis le début, qui est qu'effectivement le podcast, on peut l'écouter sur le blog de Déclencheur, on peut l'écouter dans Netvibes, on peut l'écouter sur d'autres sites qui reprennent le podcast, c'est très bien. Mais quand je le prépare, je traite le son de façon à être certain qu'il soit audible dans ces environnements qui sont plutôt bruyants. Donc quand on est en extérieur, je suis content de voir que ce n'est pas un travail perdu. Dans les commentaires du dernier épisode, Franca explique que ce qu'il fait, c'est graver des CD qu'il écoute après sur son autoradio. Mais hier, le baladeur MP3 semblait avoir plus la cote. Je vous passe la parole.
Je l'ai découvert par iTunes d'abord, c'est comme ça que j'ai. Et puis depuis maintenant, je l'ai tout le temps avec moi, donc tous les numéros presque. Donc,
J'écoute sur mon baladeur MP3, en général dans les transports en commun, le soir quand je rentre.
Moi aussi, c'est sur l'iPod, donc dans les transports en commun.
J'écoute Déclencheur quand je vais au travail, dans le tramway, dans le transport en commun.
Souvent chez moi, sur mon ordinateur, et parfois dans le métro, sur mon baladeur MP3.
Alors, j'ai découvert récemment que je pouvais écouter Déclencheur dans mon téléphone MP3.
Dans l'iPod, hein. Toujours sur moi, toujours avec moi, je l'emporte partout. Avec mon boulot, je suis pas mal en dehors de chez moi, donc c'est parfait.
Deuxième segment, comment calibrer son écran. Je suis avec Emmanuel Lafont, le fondateur de profilicc.com. Bonjour Emmanuel.
Salut Benoît.
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Ça va bien, merci. Alors on va enregistrer un épisode qui à mon avis va faire pas mal plaisir parce qu'il va répondre à des questions qu'on me pose régulièrement depuis un certain temps sur la gestion de la couleur. On avait déjà fait un premier épisode avec Dominique Legrand, mais ici on va essayer d'être beaucoup plus concret et on va s'intéresser en particulier à la calibration de l'écran. Alors profilicc.com, vous faites quoi?
Profilicc.com, nous faisons des profils couleurs sur mesure par internet.
On s'est contacté via Nicolas Esposito en fait et tu m'avais proposé d'essayer un profil ICC. J'en ai fait faire un sur mesure pour un profil où j'avais déjà le profil constructeur et c'est vrai que j'étais surpris, j'y croyais pas. Mais effectivement, on voit une différence, on se dit qu'Epson, ils doivent savoir faire et tout ça. Mais c'est vrai qu'en final, on a encore un carat de qualité supplémentaire. Mais où j'ai vraiment été bluffé, c'est que je t'avais demandé de me faire un profil pour un papier sur lequel j'avais passé une journée à essayer en imprimant des photos, en faisant des réglages et tout ça, à essayer d'arriver à imprimer une photo avec. C'est un papier japonais qui est vendu comme un papier jet d'encre, mais qui est une pure horreur à utiliser. Et en fait, toi, tu t'as imprimé une charte, tu m'as renvoyé un profil et ça y est, sans rien faire de plus, j'ai des résultats qui sont 5 fois meilleurs que ce que j'avais en ayant passé une journée à m'embêter. Quoi.
Voilà, tout à fait. C'est le but des profils ICC, ouais. Et en termes de résultats qualitatifs, de simplification des procédures, d'impression, gain de temps, ça peut être que positif, ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement un profil ICC?
Alors, un profil ICC, donc pour rester simple, disons que c'est un fichier de quelques kilooctets qui décrit l'ensemble des couleurs qui peuvent être reproduites par des périphériques tels que des écrans, des imprimantes ou des scanners. La seconde chose, c'est que c'est un standard qui est reconnu par l'ensemble des acteurs de l'industrie informatique. ICC, ça veut dire International Color Consortium, donc ou Comité International de la Couleur. C'est un comité qui fut constitué au début des années 90 et qui regroupe des professionnels de l'industrie qui, à l'époque, ont souhaité créer un système universel de gestion des couleurs qui fonctionnerait de manière transparente, quel que soit et le système d'exploitation et le logiciel utilisé. Donc c'est un consortium qui regroupe quand même des acteurs tels que Microsoft, Apple, Adobe, Sun Microsystems. Donc ils sont très nombreux aujourd'hui et c'est vraiment un standard unanimement adopté et généralisé.
Ce qui est un petit peu, et c'est très logique quand on entend ta définition, mais ce qui est un petit peu perturbant avec le profil ICC, c'est que ce fichier, on va l'avoir pour l'écran, on va l'avoir pour l'imprimante, on va l'avoir pour tous ces périphériques.
Voilà, tout à fait. Quel que soit le périphérique, donc que ce soit un périphérique qui retransmet des images comme un écran ou une imprimante, ou qui capture des images comme un scanner, il va gérer les couleurs par ce standard-là, qui est intégré à toutes les solutions matérielles et logicielles actuellement.
Et ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'on a aussi des profils dans lesquels on développe nos photos. Le profil ProPhoto, le profil sRGB, le profil Adobe RVB.
Oui, alors là, on parle effectivement de profil. Moi, je parlerais plutôt d'espace de couleur parce que c'est une notion un peu différente du profil technique qu'on doit assimiler et adapter à un périphérique. Là, c'est un profil qu'on va utiliser pour des images. Donc, il y a une petite notion dans l'utilisation qu'on va faire de ce profil qui est un peu différente de ceux qu'on utilise pour le matériel et le logiciel.
Mais ce qui est perturbant, c'est que ça finit aussi par un fichier profil.icc, quoi.
Oui, c'est une des choses qu'on doit intégrer quand on se lance un peu dans la gestion des couleurs. C'est notamment, par exemple, comprendre ces différences entre ces différents profils.
Et donc, c'est bien le même fichier, mais il va servir à autre chose.
Voilà, tout à fait, c'est le cas. Un profil, ça permet de savoir quelles couleurs sont reproductibles par un périphérique et de quelle manière. Donc, grâce à cela, il est possible, premièrement, d'optimiser le rendu colorimétrique d'un périphérique. Deuxièmement, de calculer, de visualiser son gamut, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs qu'il peut reproduire. Et d'une manière générale, on va harmoniser les rendus colorimétriques d'une chaîne graphique composée par exemple d'un scanner, d'un écran et d'une imprimante.
Et donc de façon concrète, quand tu dis optimiser le rendu d'une chaîne graphique, ça veut dire qu'au lieu de passer une journée à essayer de tirer quelque chose sur ce foutu papier japonais, en 5 minutes, on a le bon résultat.
Voilà, ça simplifie la procédure d'impression. Puis évidemment, il y a une économie d'encre, du fait qu'on est bon dès le premier tirage et un gain de temps qui est très appréciable.
Aujourd'hui, on va pas parler de tous les périphériques parce que sinon, on est encore là demain. Mais on va s'intéresser aux périphériques de démarrage en photo numérique, l'écran. Il y a une époque, il y avait débat sur les écrans LCD, les écrans CRT, etc. Quel est ton point de vue là-dessus?
La question qui se pose, c'est est-ce que les écrans LCD sont aussi bons aujourd'hui que ce que donnaient les meilleurs CRT d'il y a quelques années. Donc depuis 2003-2004, les CRT sont beaucoup moins utilisés que les LCD, donc la distribution disparaît sur le marché. À leur apparition, les écrans plats étaient loin d'atteindre les propriétés des tubes cathodiques. Donc c'est pour ça qu'on a gardé dans les milieux graphistes et photographiques des écrans à tubes. Mais aujourd'hui, bon, les choses se sont inversées, les meilleurs écrans plats sont beaucoup plus performants que les meilleurs écrans à tubes d'il y a quelques années. Enfin, selon moi.
Donc, faut plus hésiter, quoi.
Non, il n'y a plus d'hésitation à avoir.
On parle bien d'écran de qualité. Il est clair que
oui.
Le petit écran bas de gamme, bah, il est
oui,
forcément
toujours.
Pas aussi bon
oui,
qu'un
oui.
écran. Mais c'était vrai aussi en cathodique.
Oui, oui.
Et quand on choisit son écran, alors à quoi est-ce qu'on doit faire attention?
Concernant le rétroéclairage, il faut constater qu'il soit homogène. Les écrans milieu et bas de gamme, on voit souvent que les coins inférieurs et supérieurs sont un peu moins profond dans les noirs que le centre de l'écran. Donc ça, c'est un des aspects de l'écran qu'il faut considérer, surtout quand on travaille en noir et blanc. Deuxièmement, c'est l'angle de vision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la colorimétrie et le contraste d'une image affichée soient modifiés si on décale le regard de haut en bas ou de gauche à droite. Donc sur certains écrans, on peut se décaler, il n'y aura pas de changement, mais sur des écrans beaucoup plus bas de gamme, on va à peine se décaler, il y aura déjà une petite différence dans le rendu de l'image. Et c'est souvent le cas, même sur des écrans qui sont annoncés comme ayant un angle de vision très important. Donc il faut bien constater ce point-là.
C'est vrai que l'angle de vision annoncé est parfois beaucoup plus large, mais c'est parce qu'en final, beaucoup d'écrans sont vendus pour la bureautique, où on n'a pas ces besoins d'avoir des couleurs parfaites. Et je crois que ce que les fabricants essayent de dire, c'est qu'on peut être à 5 autour de l'écran, on verra le document Word. Mais ce n'est pas nécessairement vrai pour une photo, non?
Oui, tout à fait. Oui. C'est dans l'intérêt des constructeurs de mettre sur les fiches techniques des caractéristiques de leurs produits, des angles adaptés à la cible, je dirais, la plus large. Et donc, la cible la plus large, souvent, pour les écrans, c'est la bureautique. Dans les critères de choix, citons également le menu de l'écran, qui doit permettre de modifier les réglages de luminosité, de contraste et de balance des blancs, pour permettre, on le verra plus tard, une meilleure calibration de l'écran et de l'affichage. Et ensuite, bon, bah, évidemment, il y a le budget. C'est un critère qui est important parce que les écrans destinés au milieu de l'image, de la vidéo, du graphisme et de la photo, c'est des écrans qui quand même sont pas donnés. Me concernant, moi, je travaille sur un écran qui coûte 600 euros. Donc, c'est un écran qui est tout à fait standard. C'est un écran 16 dixièmes de 20 pouces. C'est un bel Linéa. Il n'est pas spécialement conçu pour la photographie et la retouche. Mais moi, je m'en sors très bien. Ça m'empêche pas de faire des photos, de faire des retouches sur cet écran et d'imprimer des images parfaitement équilibrées.
Oui,
donc pas de souci, voilà, il n'y a pas de frustration à avoir quand on ne veut pas mettre 2000 euros dans un écran, mais plutôt les mettre dans un boîtier et une optique.
Arrivons-en justement au thème essentiel de cet épisode. Concrètement, la calibration. On va peut-être commencer par se poser la question. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on doit calibrer son écran?
Les réglages par défaut qui sont appliqués au moniteur en sortie d'usine sont rarement optimisés. Les données des profils génériques qui sont fournis par les constructeurs ne correspondent jamais aux caractéristiques réelles de l'écran qui se retrouve chez nous. L'intérêt du profil sur mesure, ça va être, je dirais, de pouvoir afficher sur l'écran des couleurs qui sont des couleurs réelles, des couleurs vraies. C'est-à-dire des couleurs qui vont correspondre aux couleurs de l'image originale, de l'image qu'on a photographiée. Ça, c'est le point essentiel. Ensuite, comment on va acquérir les images, les retoucher via l'écran et ensuite éventuellement les imprimer, on va pouvoir faire en sorte que d'une étape de production à l'autre, donc de l'acquisition à la retouche à l'impression, les couleurs soient garanties stables, c'est-à-dire qu'elles restent telles qu'elles sont au départ.
Donc concrètement, ça veut dire j'ai photographié une rose rose. Elle va apparaître rose sur l'écran, elle sera rose à l'impression et ce sera le même rose à travers toute la chaîne.
Voilà, c'est le but. Le profil d'affichage de l'écran sur mesure va permettre d'effectuer des opérations de retouche assez précises puisque le rendu des couleurs est précis. On va pouvoir juger du niveau de luminosité, de contraste, la saturation.
Donc si ma rose, je veux pas qu'elle soit rose mais je veux qu'elle devienne jaune, j'aurai exactement la tonalité de jaune que je veux. Et c'est bien celle-là qui s'imprimera.
Voilà.
Pratiquement, pourquoi est-ce que l'écran que j'achète, il n'est pas capable tout seul d'afficher les bonnes couleurs?
Certainement parce que l'écran que tu achètes, c'est pas un écran destiné à la retouche. C'est-à-dire un écran haut de gamme pour les infographistes ou les photographes.
Mais, donc, même un écran de photographe, il doit être calibré.
Ils le sont. Ils sont calibrés en usine. Bon, après, l'électronique, elle va bouger dans le temps ou en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. S'il y a des champs électromagnétiques qui peuvent perturber l'affichage, il va falloir le régler à nouveau avec une sonde. Même pour les écrans très haut de gamme, ça bouge, ça peut bouger. Et on est confronté à des impératifs qualitatifs qui sont tellement importants qu'il faut là aussi intervenir pour garantir la stabilité de l'image et de l'affichage.
Pour résumer un peu ce que tu dis, il n'est pas capable d'afficher des bonnes vraies couleurs à cause des tolérances de fabrication et à cause de l'usure du matériel. Qu'est-ce qu'on va faire pour compenser justement le fait que l'écran bouge dans le temps?
Pour arriver à un écran bien calibré, il y aurait deux étapes. La calibration, c'est la phase où l'on optimise les réglages du moniteur par son menu. Par exemple, la luminosité, le contraste, la balance des blancs. C'est en quelque sorte un pré-réglage. Donc, on règle physiquement le moniteur pour afficher et optimiser encore davantage la deuxième étape. Alors, pour prendre une analogie, c'est comme un petit peu en photographie. Par exemple, on va prendre son objectif le meilleur et on sait qu'on aura après plus de latitude pour une correction via Photoshop. Alors que si on prend un objectif de moins bonne qualité, on pourra certes rattraper avec Photoshop, mais ça ne sera pas forcément aussi efficace.
Que la machine donne le meilleur d'elle-même.
Voilà, c'est tout à fait ça. Ensuite, il y a la caractérisation. Donc, c'est l'étape où on fait afficher à l'écran des échantillons de couleurs. On va les mesurer pour en déduire le comportement de l'écran. On va corriger, grâce au profil, les déviances de l'affichage et afficher des couleurs aussi justes et précises que possible. Donc, par exemple, si on affiche un carré à l'écran, dont on sait que les valeurs RVB sont, je sais pas, 230, 20, 50. On va s'assurer, en utilisant une sonde, que ce qu'affiche l'écran est bien un carré qui a les valeurs RVB de 230, 20 et 50. Si c'est pas le cas, la sonde va détecter cette déviance et va intégrer les données de la correction dans le profil ICC.
Avec mon regard d'informaticien, j'ai l'impression que ça se résume à des maths en final. Et c'est logique parce que c'est tout ce que l'ordinateur peut faire. Si, comme tu le disais à l'instant, l'image doit afficher 230, 20, 50, qu'elle affiche 210, 20, 50. Le profil, il dit simplement, il faudra faire plus 20 dans les rouges.
Oui, c'est ça. C'est une correction au niveau des canaux RVB, oui.
Pratiquement, là, on a compris ce qu'il faut faire. Mais reste l'étape inquiétante qui est de se dire, comment est-ce que je le fais concrètement sur ma machine? D'abord, la première question qu'on se pose, c'est, On vend ces sondes, est-ce que ça vaut la peine de les acheter et quelle qualité est-ce qu'il faut acheter?
Moi, quand j'ai commencé à calibrer mon écran, j'ai commencé, comme beaucoup, avec Adobe Gamma. Donc Adobe Gamma, c'est un petit logiciel qui est installé avec Adobe Photoshop et Elements, dont la fonction, c'est de créer un profil d'affichage et de le charger au démarrage de Windows ou de macOS. Donc c'est une solution qui est pratique parce qu'elle est gratuite. Simplement, le calibrage de l'écran avec cette solution, il se fait à l'œil. Et l'œil, c'est un outil qui est pas super précis. Surtout que deux personnes ne voient pas forcément les couleurs de la même façon. Donc, c'est mieux que pas de calibrage du tout, mais on est loin des résultats obtenus avec une sonde. Il faut le savoir quand même qu'il existe des solutions gratuites, donc Adobe Gamma, WYSIWYG, il y en a plusieurs sur le net. La plus connue et la plus diffusée, c'est Adobe Gamma.
Je me souviens quand on avait enregistré le premier épisode sur la gestion de la couleur avec Dominique Legrand, il nous avait dit que dans ses cours, il demandait fréquemment à toute la classe de calibrer l'écran avec Adobe Gamma, et il n'avait pas deux écrans calibrés de la même façon, parce que comme tu le dis, chacun a sa vision.
Oui, tout à fait, c'est pas un exercice facile, surtout que je me souviens au départ quand j'ai commencé avec cet outil-là, j'ai cherché les infos sur le web, il y avait quelques tutoriaux, mais ils donnaient pas tous toutes les ficelles à connaître pour arriver à un résultat à peu près acceptable. J'ai fait en quelque sorte un best-of, je l'ai monté en dossier, il est accessible sur profil.icc.com, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de solution de sonde. C'est mieux que pas de calibrage du tout, c'est sûr. Mais comme on perçoit chacun d'entre nous les couleurs différemment, oui, effectivement, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes rendus.
Est-ce qu'il y a des gens à qui, objectivement, tu déconseilles l'utilisation de la sonde?
Non, aucune personne. Non, les résultats sont vraiment nettement meilleurs avec une sonde, bien meilleurs qu'avec une solution à l'œil.
Et donc, on arrive à, en final, ce qui est le conseil qu'on entend systématiquement, c'est achetez-vous une sonde. Et à quoi est-ce qu'il faut regarder quand on achète une sonde?
Ce qu'il faut regarder, c'est le logiciel. Parce que la sonde, elle se compose de l'outil de mesure, c'est-à-dire la sonde, et de la partie logicielle qui va procéder au pilotage de la sonde et à l'analyse des résultats. Donc c'est vraiment le logiciel qui va être déterminant dans le choix du modèle à acheter et de la marque à acheter. La fourchette, en gros, c'est entre 100 et 450 euros.
Et entre les sondes bas de gamme et les sondes haut de gamme, est-ce que la différence de prix est justifiée et quels sont les avantages d'une sonde haut de gamme?
Parmi les avantages, tout de suite, c'est le résultat de la calibration. C'est-à-dire que les deux étapes dont on vient de parler, la calibration et la caractérisation, vont être vraiment très précises. Parce que l'outil de mesure, c'est un outil électronique. Et ensuite, bon, c'est quand même la simplification du processus. Donc les deux étapes de création du profil sur mesure, pour l'écran en tout cas, c'est pas forcément simple. Et quand on investit dans une solution de sonde avec logiciel, tout de suite, il suffit de se laisser guider, c'est quand même très didactique. Donc on va avoir une seule opération pour régler à la fois l'écran, créer le profil, le placer dans le dossier approprié, le charger au démarrage du système d'exploitation. Donc c'est tout bénef.
Donc les meilleures sondes ont des meilleurs logiciels que les sondes en haut de gamme, c'est ça que tu dis?
Oui, les sondes les plus chères sont généralement accompagnées de solutions logicielles qui sont un petit peu plus complètes. Donc après, tout dépend du niveau d'exigence de la personne qui veut investir dans une sonde. On peut avoir de très bons résultats avec les sondes entrée de gamme, mais on peut se rendre compte, quand on les a acquises, qu'on peut être limité sur certains paramètres de la caractérisation. Je dirais qu'il y a une troisième possibilité, c'est le spectrophotomètre. Donc c'est également une sonde. Le spectro permet une mesure beaucoup plus précise que celle effectuée par les meilleures sondes. Donc en termes de résultats, on est bien meilleur qu'avec une sonde. Mais c'est une solution qui est très chère, faut compter dans les 1500 euros, et qui est réservée aux pros.
Je suis naïf, mais j'ai toujours cru que les sondes, c'était des spectrophotomètres.
Non, la sonde, c'est ce qu'on appelle un colorimètre.
Mmh.
La différence, alors elle est très technique, elle est dans l'analyse du spectre visible de la lumière. Il y a la sonde qui est beaucoup moins performante dans cette analyse que le spectrophotomètre.
Et le spectrophotomètre, c'est l'outil qu'on utilise aussi pour faire les calibrations papier?
Oui, c'est le même outil. C'est un outil qui est quand même assez polyvalent, qu'on peut utiliser à la fois pour la calibration de l'écran et la lecture de chartes imprimées. Et le spectro, on peut s'en servir pour lire les couleurs sur n'importe quelle matière, du tissu, du bois, du plastique.
J'ai acheté ma sonde, j'allume mon écran, et puis qu'est-ce que je fais?
Le premier conseil que je donnerais, c'est de désactiver l'économiseur d'écran, parce qu'on va attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, que l'écran se stabilise en température.
Je viens de déballer ma sonde, je suis impatient, faut que j'attende quand même une demi-heure, trois quarts d'heure avant de me lancer.
Oui. Oui, parce que la température des composants, elle a une influence sur le rendu colorimétrique de l'écran, en tout cas pour les écrans moyenne gamme.
Ok, donc j'en profite pour installer le logiciel.
Bien sûr, on branche la sonde, on lance le processus de création du profil et on est assez rapidement pris en charge par la solution logicielle. Elle nous demande par exemple de choisir si on calibre un écran CRT, donc à tube, ou un LCD, un écran plat. Ensuite, on va définir des paramètres cibles qui correspondent à la première étape, c'est-à-dire la calibration de l'écran. Par exemple, le point blanc, ça va être le gamma, la luminance. On va directement régler ces trois paramètres par le menu et on va valider grâce à la sonde qu'on a atteint un bon réglage.
Alors attends, je t'arrête un peu parce que cette calibration, moi je trouve que c'est l'étape la plus compliquée. Je me souviens la première fois où je l'ai fait, je suis sur un Mac, un iMac en l'occurrence, il n'y avait pas de réglage de contraste et le logiciel me disait, voilà, vous avez choisi température de couleur, etc. Déjà, je ne savais pas trop ce qu'il fallait mettre, mais j'espère qu'on y reviendra. Mais ensuite, il me disait de régler le contraste, la luminosité et je ne savais pas ce que je devais faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on va dans le menu, qu'est-ce qu'on fait s'il pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre?
Normalement, si le logiciel qui accompagne la sonde est bien fait, on peut passer ces étapes et ça n'aura pas d'incidence sur la qualité de la création du profil. C'est-à-dire que les réglages qu'on ne peut pas faire sur les écrans, par exemple des Mac, en termes de contraste, on indiquera aux logiciels qui n'ont pas été réalisés. Et lors de la création du profil et de la mesure des chartes, le logiciel va compenser la déviance de l'écran en termes de contraste qui n'a pas été optimisée préalablement dans la phase de calibration.
Et si j'ai l'option de faire ce réglage, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois choisir comme étant la luminosité? Qu'est-ce que je dois choisir comme étant le contraste?
Donc, quand on arrive à ces étapes-là, pour le contraste, la luminosité, etc., on a la sonde qui est posée sur l'écran. Et quand on fait des changements dans le menu de l'écran, on a la sonde qui prend les mesures et qui nous indique dans une petite fenêtre, une petite fourchette verte dans laquelle il y a un indicateur. Et le but, donc c'est dit dans le logiciel, c'est de placer le petit indicateur au milieu de ce vert qui indique la zone dans laquelle le contraste est optimal. Donc il y a simplement à augmenter ou à diminuer le contraste pour se placer dans les conditions optimales requises par la partie logicielle de la solution de calibration.
Là, on est en train de faire ce que tu expliquais tout à l'heure, comme mettre son meilleur objectif sur l'appareil photo, en fait.
Voilà, c'est ça.
Et puis, une fois qu'on a fini cette étape-là,
Là, on ne touche plus à rien. On laisse la sonde travailler et l'écran va afficher une série de patchs colorés. Ça dépend des solutions. Il y en a certaines où il y en a 30, d'autres où il y en a 40, 50. Bon, évidemment, plus il y en a, plus la mesure est précise. C'est le logiciel qui va envoyer à l'écran des patchs colorés qui vont être lus par la charte. Ils vont être mesurés par la charte. On connaît les valeurs des patchs colorés qui sont affichés et la charte va voir si ces valeurs sont respectées. Si elles ne le sont pas, va appliquer une correction. Voilà. Donc on va créer et charger le profil d'affichage à la fin de ce processus.
Ce qui est bien, c'est que cette étape-là, contrairement à l'autre où il fallait aller dans le menu, cette étape-là, elle est complètement automatique.
Oui, elle est automatique, on n'a rien à faire, si ce n'est attendre que la procédure de mesure est terminée.
J'ai lu sur Internet qu'il fallait mieux le faire dans le noir, qu'il valait mieux le faire à midi, qu'il valait mieux le faire au matin. Enfin, il y a des choses les plus folles qui circulent autour de ça. Qu'est-ce qu'il en est en réalité?
Moi, je pense qu'il faut le réaliser dans un environnement de travail lumineux, normal. Normalement, la sonde, quand elle est posée sur l'écran, elle ne reçoit pas la lumière de l'éclairage ambiant parce qu'elle est isolée des lumières qui peuvent la perturber. Donc, normalement, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
On va revenir sur ces paramètres que le logiciel nous demande. La température de couleur, le gamma, qu'est-ce qu'il faut répondre?
C'est vrai que ce n'est pas évident. Le conseil, c'est 5500. Voilà. Quand c'est possible, choisissez 5500. Quand c'est pas possible, choisissez une valeur qui est aussi proche de 5500. Le standard, c'est 5000 degrés Kelvin. Donc, c'est un standard qui est adopté par l'industrie graphique et les imprimeurs. Bon, c'est un réglage, quand on l'applique à l'écran, on a tout d'un coup une image qui devient vachement jaune. Vraiment très très jaune, blanc jauni. Donc, ça peut perturber. Donc, moi, j'ai fait le choix à titre personnel et en général, c'est ce que je conseille, c'est de choisir une valeur un peu plus bleutée au-dessus de 5000. Donc, c'est 5500. Et bon, j'ai de bons résultats, et puis je vois que je ne suis pas le seul à adopter ce réglage-là.
Quel est le rapport entre cette température de couleur, la balance des blancs qu'on mesure aussi en Kelvin, et le tirage papier? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on le voit en photo avec la balance des blancs, chaque source lumineuse a une température de couleur, et elle influence la couleur des objets. C'est pour ça que quand on fait des photos sous lumière incandescente, elles sont rouges, et donc il faut prendre une balance des blancs incandescente, tungstène, pour dire à l'appareil photo, c'est trop rouge et il faut compenser. Et j'avais compris que le réglage de la température de couleur dans le calibrage, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la température de couleur à laquelle on pense qu'on observera ces photos, ces tirages. Donc à la limite, si on sait qu'on va les observer sous de l'incandescent, il faudrait prendre 2008 ou 3000 Kelvin, qui est à peu près la température de l'incandescent. Sauf qu'évidemment, en pratique, on regarde pas ces photos que sous de l'incandescent, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais à la limite, c'est ça qu'il faudrait faire pour que toute sa chaîne soit à la même température de couleur que ce à quoi on va observer le tirage. Est-ce que j'ai bien compris ou pas?
Oui, c'est tout à fait ça. Moi, souvent, je prends l'exemple du photographe qui expose en galerie. Généralement, il se renseigne sur la température de couleur de la galerie pour retoucher ses images, donc pour régler son écran et son périphérique d'impression. à cette température de couleur-là.
Et tu nous proposes 5005 parce qu'en fait 5005 c'est une bonne moyenne de la plupart des éclairages.
Voilà, tout à fait. 5500, on se rapproche d'une lumière du jour. C'est ni trop chaud, ni trop froid, donc c'est quand même un bon compromis, oui.
Le gamma, 1.8, 2.2 ?
Moi, personnellement, je choisis un gamma de 2.2. À une époque, sur Mac et PC, on se battait un petit peu, les PC à 2.2, les Mac à 1.8. Donc aujourd'hui, on assiste quand même à une normalisation de la valeur de 2. Donc pour mes clients, quelle que soit leur plateforme, moi je conseille une valeur de 2.2. Parce que les fabricants ont adopté cette valeur-là, que ce soit pour les cartes graphiques, les écrans. Donc aujourd'hui, oui, c'est plutôt 2.2 qui s'impose.
Donc maintenant qu'on a les paramètres et qu'on a vu le pas à pas, est-ce qu'il y a d'autres points auxquels il faut être attentif, des petites erreurs qu'on peut commettre avant de lancer la calibration?
Oui, il y en a un. Comme il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec Elements et Photoshop, quand vous investissez dans une solution de calibration avec son des logiciels, il faut veiller à empêcher Adobe Gamma de se charger en même temps que Windows. Parce qu'Adobe Gamma, il a deux fonctions. Il a non seulement la création du profil d'affichage quand on le souhaite, et il a la fonction de charger ce profil au démarrage du système d'exploitation. Donc si vous installez un logiciel pour créer un profil d'affichage avec une sonde, il va lui-même installer un logiciel équivalent à Adobe Gamma, qui s'appellera autrement bien sûr, mais qui pourrait rentrer en conflit avec Adobe Gamma.
Sur Mac, on n'a pas le problème, c'est géré par l'OS dans ColorSync et on ne doit pas s'embêter avec tous ces trucs.
Oui.
D'autres points auxquels il faut être attentif?
Je dirais, c'est la périodicité de calibration. Je dirais qu'il est conseillé de calibrer pour un LCD toutes les 3 à 4 semaines. Le LCD il va plutôt avoir tendance à bouger dans les premières centaines d'heures d'utilisation, donc 200-300 heures, et après il se stabilise. Après l'achat, veillez à calibrer toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours, et puis après on peut rallonger quand on constate qu'il n'y a pas de changement tous les mois ou toutes les 6 semaines. Par contre, pour les CRT, c'est un petit peu l'inverse, ils sont plus stables en début de vie. Avec les années, il faut rapprocher les séances de calibration, surtout vers la fin, et je dirais qu'au-delà de 3 ans, l'écran... Il a une qualité d'affichage qui décroît très très fortement.
L'écran tel qu'on le reçoit, il est réglé avec des couleurs un peu peps, un peu très vivantes. Mm-hmm. Et puis quand on a fini la calibration, forcément on l'a renormalisé, donc il a perdu ce côté clinquant. Ça entraîne comme effet que parfois on se dit, tiens, est-ce que j'ai fait une erreur? Comment est-ce qu'on peut vérifier que son profil est bien fait, qu'il est bien chargé?
Selon qu'on soit sous PC ou sur Mac. Donc sur Mac, il suffit de faire préférence système, d'aller dans moniteur et couleurs. On doit pouvoir accéder au profil d'affichage. Et sur PC, tout simplement, on fait un clic droit sur le bureau, propriétés, paramètres puis avancés. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, on a un onglet qui s'appelle gestion des couleurs. Et donc là, à profil d'écran, par défaut, on retrouve le profil qu'on a créé pour son écran avec sa sonde.
Eh bien Emmanuel, merci d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer la calibration d'un écran. C'était vraiment très intéressant et j'espère qu'on est vraiment allé maintenant dans le niveau de détail, dans le niveau de praticité qui va permettre à tout le monde de s'équiper d'une sonde et de se lancer dans la gestion de la couleur. Merci beaucoup.
Eh bien écoute, merci à toi Benoît, bonne continuation sur Déclencheur et puis félicitations pour ton travail.
Merci, salut.
Merci, au revoir.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez visiter le blog www.déclencheur.com. Tout d'abord, l'agenda, marque de pixelisme, annonce qu'ils organisent un grand concours photo avec plus de 2 000 € à gagner. Tous les renseignements et la participation au concours sur le site des pixelistes. Des messages d'encouragement reçus de Toff, Skander, Christophe Adjek, Astolfi, Fabien, DD23, Max, Gaps, Leyan, Xirtarok, Spodes, Triton, Franck Doyen et Sébastien D. Merci à vous. Suite à l'épisode avec Volker Gilbert, un commentaire de Dominique et PHP qui dit « C'est dommage de ne pas avoir parlé davantage de DxO ». Ça peut vous faire plaisir, j'ai rencontré l'équipe de DxO au salon de la photo et on s'est mis d'accord qu'on reprendrait contact pour faire une interview avec eux. Photoman qui souhaite avoir plus d'épisodes consacrés à des expos ou des rencontres avec des photographes plutôt que sur la technique, il faut le temps de nouer les contacts, etc. etc. Sloom qui demande si le format propriétaire des réflexes numériques et en particulier en son cas des Nikon, donc le format NEF, est lisible complètement par des logiciels tiers comme Lightroom? Eh bien malheureusement non, je l'ai déjà dit et je le redis, je crois qu'en la matière Nikon, les autres fabricants qui choisissent de verrouiller leur format RAW font une énorme erreur. C'est pas une problématique commerciale, c'est pas comme avec les flashs, les objectifs où effectivement les fabricants font le même principe, hein, ils ont chacun une baïonnette propriétaire, ce qui oblige entre guillemets à acheter des flashs ou des objectifs dans la même marque ou à prendre un petit peu de risque en allant chez un tiers et ne pas avoir toutes les fonctionnalités. Mais le problème est complètement différent, parce que ces outils-là, on s'en sert à la prise de vue. Dans 20 ans, dans 30 ans, si je veux regarder une photo qui a été prise aujourd'hui, j'ai pas besoin de ressortir l'appareil photo. Par contre, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais pouvoir relire mon fichier RAW, Je vais pouvoir le retraiter avec les algorithmes qui auront évolué d'ici là et qui pourront le retraiter bien mieux. Et donc, il est indispensable, indispensable que les fabricants publient les spécifications de leur format. Toujours dans les réactions de cet épisode, Sébastien qui nous indique qu'il a choisi Lightroom. Mickey qui demande un épisode qui s'appellerait « L'itinéraire d'une photo de Benoît », ce qui se passe du déclenchement à l'archivage final. Ben, je crois que je l'ai déjà fait. Si tu écoutes l'épisode archivage et l'épisode développer ses fichiers RAW, tu as en gros le traitement d'une photo de Benoît. Photoman pose une question sur Photoshop CS3. Il a un problème avec les droplets qui ne fonctionnent pas sur son PC. Sûrement Mac, elle fonctionne. Si quelqu'un a une idée pour l'aider, postez un commentaire. Et justement, dans les commentaires d'entraide, GMR55 répond à un commentaire de Danes, qui, on s'en souvient, avait un problème avec son autofocus. GMR se demande si c'est pas un problème d'assombrissement de l'image. Comme le polarisant diminue la lumière qui rentre dans le boîtier, par définition, on peut être au-delà de 5-6, hein, c'est comme si l'objectif était F8 ou F11, et donc forcément l'autofocus, là, il va patiner. Sur la rencontre avec Peter, l'ami Alain Bachelier, on s'en souvient, on l'avait rencontré il y a quelques temps, qui pose pour nous dire d'abord qu'il a apprécié l'interview, mais également qu'il est maintenant responsable du service photo du Conseil Général du Val-de-Marne, ce qui donne l'occasion de proposer des reportages à des pigistes et qu'il est ouvert à tous les talents qui n'ont pas peur à se frotter à la photo d'illustration. Sur Lumini, devenir photographe professionnel avec Peter Yann Louis, Kaboom rajoute qu'en étant pro, on perd le côté artistique de la photographie. Ma première réaction était de lui dire « bah oui, c'est inévitable parce qu'une démarche artistique, en finale, c'est une démarche individuelle. Par nature, le fait de passer sur une démarche professionnelle fait qu'on doit mettre cette démarche en opposition avec la demande d'un client. » Et puis en réfléchissant un petit peu davantage, en préparant ici les réponses aux commentaires, je me dis « mais quelque part, les grands artistes peintres du passé avaient des mécènes, donc ils étaient quelque part aussi confrontés à un problème de commande et ça ne les a pas empêchés d'avoir une démarche artistique. » Donc voilà, je m'interroge depuis que j'ai lu ce commentaire. Franca pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre zone sur le blog pour réagir, poser des questions, voire carrément un forum? Alors, je suis farouchement opposé à l'idée d'ouvrir un forum, c'est beaucoup trop de travail, il y a déjà beaucoup d'excellents forums photo. Par contre, c'est vrai qu'il serait bon d'avoir une autre zone pour justement un dialogue sur les questions à traiter, etc. C'est quelque chose sur lequel je travaille, mais ça demande de gros changements dans le moteur de déclencheur, donc il va falloir un petit peu de temps pour que ça arrive. Deuxième question, il interroge sur la critique de nos propres photos. Et il me demande si, à mon avis, il vaut mieux poster des photos sur un site généraliste ou sur un site spécialisé sur une marque. Pour progresser, il faut un environnement dans lequel il y a de vraies critiques qui s'expriment. C'est-à-dire éviter le « je vais dire du bien de ta photo pour que tu viennes dire du bien de la mienne », mais plutôt être dans un environnement où on critique réellement, c'est-à-dire ben, là, ça, cet aspect-là dans la photo, il est à améliorer. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut chercher. Mais attention, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'on doit être prêt aussi à encaisser de vraies critiques. Et peu importe que le site soit généraliste ou un site spécialisé. Sur le mini filtre de densité neutre, je dis dans l'épisode que c'est un des rares fils qui ne peut pas être simulé sous Photoshop. Club PSR pose une suggestion, il propose de faire plusieurs poses brèves et de les superposer dans Photoshop pour simuler le flou de bouger d'une pose longue. Je dois dire que je suis curieux, j'ai envie d'essayer. Nicolas Esposito partage son expérience de la vidéo. Pas mal de caméscopes pour experts et pros embarquent un filtre ND. Quant à Photoman, il propose de remplacer le filtre ND par une paire de lunettes de soleil, en tout cas pour le noir et blanc. Rémi nous met en garde sur le fait que les filtres, même de bonne qualité, ne sont pas tout à fait neutres et peuvent entraîner une légère coloration de l'image. Majid réagit sur ce duo déjà ancien qui podcastait une sortie dans une zone industrielle en demandant s'il y a des auditeurs qui connaissent de beaux sites dans le nord de la France, du côté de Lille. Pas mal de réactions, notamment de Godzilla, Thomas Paris, Tiramondi et Keylight sur la présentation du Détroit et sur le fait que j'étais pas a priori très intéressé par la sensibilité élevée. Alors encore une fois, je crois que le choix d'un appareil, ça se fait par rapport à ses besoins. Personnellement, je suis plus intéressé par l'encombrement, la légèreté de l'appareil que par sa sensibilité. Mais de nouveau, à chacun de choisir en fonction de ses besoins. Gilles aime plaide pour une gamme plus étendue chez Nikon avec un modèle entre le D80 et le D300. Alors c'est pas spécialement pour défendre Nikon, mais un bon boîtier, c'est d'abord un bon viseur. Et un bon viseur, ça coûte cher. Sébastien Chenal suggère que je consacre un épisode au blog photo. Ça me paraît pas une mauvaise idée, mais j'avoue que j'ai pas des masses d'expérience en la matière. Donc si vous avez des retours, des suggestions, postez un commentaire et on va essayer de construire ça tous ensemble. Pour finir avec ces nouveaux boîtiers, j'y trouve que le Live View est un gadget parce que l'écran ne pivote pas. Je comprends la réaction, parce que j'avais un peu la même, mais pour avoir tenu le boîtier en main, je suis plus vraiment d'accord. Il est déjà très utilisable comme ça. C'est clair qu'on peut espérer qu'ils vont améliorer la fonction et prévoir un écran pivotable ou quelque chose, mais c'est déjà un très bon début. Jacques suggère d'étendre la boutique déclencheur en organisant une vente groupée de Nikon D3, bénéfice de la vente servant à soutenir le podcast. Il y a effectivement un certain nombre de sociétés qui proposent à n'importe qui de monter la pro-boutique et s'occupent de la livraison, de la gestion de la commande, etc. Mais le vrai problème, c'est le service après-vente. Donc, ce n'est pas une démarche dans laquelle je souhaite m'inscrire. Mais si vous voulez racheter du matériel à racheter en boîtier en soutenant Déclencheur, il y a un certain nombre de liens affiliés sur le blog. Vous pouvez les suivre à chaque fois que vous le faites. Effectivement, ça aide le podcast. Sur le duo pour Léos Discovery Tour, une petite discussion entre John Locke et 406 sur l'arrivée possible d'un successeur du 5D, le 7D. Il paraît qu'il y a un code barre qui a été vu sur Internet. Benemi et Frédéric Crozat ont assisté au Discovery Tour l'an passé et ils ont visiblement bien aimé. Et enfin, il y avait toute une série de commentaires inscriptions pour la visite au salon de la photo. On s'y est rencontrés. Moi, ça m'a bien plu, même si j'ai regretté en finale de ne pas avoir plus de temps pour discuter avec chacun d'entre vous. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le blog www.déclencheur.com. L'abonnement est gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous recevez tous les épisodes automatiquement. Toutes les infos pour ça sont sur le blog. Sauf changement de dernière minute, le prochain épisode sera une rencontre avec Henri Rossier pour parler de l'éclairage dans la prise de vue. À bientôt !